C'est l'été. L'équipe de C'est pas du vent s'est mise au vert, mais pas d'inquiétude, on vous laisse avec les meilleurs moments de l'émission.
Domingo, Catène.
C'est pas du vent. C'est pas du vent.
Catène.
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour. À 3 heures de bateau de la Guinée-Bissau, l'archipel des Bijagos, classé réserve de biosphère par l'UNESCO, fait partie des plus beaux de la planète. Ses 88 îles abritent une biodiversité exceptionnelle, autour de laquelle les habitants ont construit leur culture et leurs traditions. Mais depuis quelques années, les sites sacrés et les animaux fétiches sont menacés par les expropriations, la surpêche et un tourisme irresponsable. Pour tenter de les protéger, le peuple Bijago des trois îles, Urok, a réussi à faire classer son territoire aire marine protégée communautaire. C'est la détermination de l'ONG bissao-guinéenne Tiniguena, avec l'appui de plusieurs partenaires comme l'Institut de la biodiversité et des aires marines protégées et la Fédération internationale du Bandarguin qui a payé. Mais 9 ans après, quels sont les résultats? Est-ce que la création de cette aire marine protégée communautaire a vraiment permis de préserver cette magnifique partie de l'archipel? Igor Strauss est allé à la rencontre de ce peuple animiste et de ses paysages entre terre ferme et bateaux, mangroves et sable blanc.
C'est pas du vent sur RFI.
On est au village d'Akoko, c'est un de 13 villages d'île Formosa dans le complexe des aires marines protégées communautaires Urok. C'est un village Bijago, mais où on a le plus grand nombre de pêcheurs Bijago. C'est ce village ici. Et ici, on va trouver la pêche plus professionnalisée. Parce que les Bijagos ne sont pas les grands pêcheurs. Malgré qu'ils dépendent beaucoup de la ressource côtière et maritime, ils dépendent plus de la brousse, de la forêt. Parce qu'ils ont perdu un peu la capacité de contrôler la mer avec différents facteurs d'histoire. Le besoin de se cacher un peu dû au contact avec les colonnes. Et plus part parce qu'il avait tellement de ressources qu'il n'avait pas besoin de sortir très loin pour aller à la pêche. Il faisait toute la pêche au niveau de la côte. Donc ils ne sont pas spécialisés pour aller loin.
Et aujourd'hui, la ressource, elle en est où?
Une grande partie est déjà finie. On parle des grands poissons, pratiquement. Si on parle avec un pêcheur comme Jean Courrier, il va vous raconter un peu comment il pêchait peut-être à 30 ans. Où il pêchait de grands poissons, des poissons-scie, de grands requins marteaux au niveau, à côté de la côte. Mais maintenant, tous ces poissons sont partis, dû à la pression exercée sur la pêche dans tout l'archipel pour les pêcheurs qui sont venus de notre côte d'Afrique d'Ouest, pêcheurs sénégalais, de la Guinée, de Sierra Leone, Ghanéens, tous ces gens pêchent dans cet espace.
On va discuter avec monsieur le pêcheur alors.
C'est très bon.
Je suis en Corée. Non, c'est 1940.
Je m'appelle Jean Correa, je suis né en 1940. Je suis le deuxième homme en termes d'importance sur le plan spirituel dans ce village.
Et c'est difficile de gérer la communauté aujourd'hui?
Ce n'est pas une tâche aisée. Parce que la communauté se gère de manière collégiale, mais avec des responsabilités bien déterminées pour chacun d'entre nous. Moi, je m'occupe du côté spirituel, du côté organisation traditionnelle. Je suis en relation directe avec les fétiches, etc. Donc, toutes les cérémonies qui déterminent la vie de la communauté par rapport à nos anciens ou à nos ancêtres, je m'en charge. Actuellement, si tu regardes dans nos villages, la plupart des vieux sont en train de partir. Nous sommes la deuxième génération, j'ai 78 ans.
Alors, vous êtes pêcheur. Est-ce que vous pouvez me parler de la pêche? Déjà, quand vous étiez jeune, comment votre père vous a transmis tout son savoir pour devenir pêcheur? Et puis me faire une comparaison peut-être avec, avec aujourd'hui.
Question de pesca. Pesca antigua.
Avant, nous avons une pêche beaucoup plus traditionnelle. C'est-à-dire que nous avons des instruments comme le filet à épervier, nous avons des instruments comme la harpe, nous avons des instruments comme la nasse. Nous sélectionnons quelques espèces pour l'alimentation quotidienne et nous libérons les autres, nous rentrons. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est compliqué. Il y a une façon de faire la pêche qui ne nous satisfait pas. Et si personne ne nous aide à bloquer cela, demain, il n'y aura plus de poissons ici. Parce que des gens, ils viennent avec des très grands filets qui prennent des kilomètres et ils essaient de barrer tout le lit du fleuve avec ce filet-là. Et au moment du retrait de l'eau, tous les poissons restent bloqués. Et là, ils se servent, ils remplissent les cales et après, ils trient les poissons qu'ils veulent et le reste, ils les jettent comme ça, ils meurent. Et avec ça, ils sont en train de détruire toute la ressource. Il faudra que l'on se lève très tôt pour mettre fin à ce genre de pratique dans notre milieu.
Mais vous, les Bijagos, quel rapport vous entretenez avec la nature, en fait ?
Ça, c'est une tradition que nous avons héritée de nos ancêtres. Ne jamais détruire, ne jamais gaspiller. Dans la nature également, sur la récolte des palmiers ou des palmistes, c'est exactement la même chose. On ne coupe pas n'importe quel régime. Mais celles qui répondent aux besoins de l'homme, c'est ce que nous coupons. Ça, nous l'avons hérité de nos ancêtres. Et c'est devenu maintenant quelque chose de culturel pour nous. Préserver, prendre juste le nécessaire. C'est ce que nous continuons et nous travaillons dans ce sens-là.
Alors aujourd'hui, malgré tous les efforts que vous avez faits pour entretenir et pour conserver cet environnement, force est de constater qu'il est menacé. Il a d'ailleurs fallu créer des aires marines protégées. Est-ce que ça va suffire, selon vous, à préserver l'environnement ou est-ce que vous êtes inquiet pour le futur ?
Nous avons nos règles à nous, personnellement, de préservation. C'est-à-dire que nous avons nos fétiches que tout le monde, toute la communauté connaît et que les gens doivent respecter. Alors ce sont ces fétiches-là, à peu près, que nous avons implantés dans certaines zones que nous voulons protéger pour interdire à un certain moment de l'année que les gens viennent violer cet espace-là. Et pour l'instant, ça marche.
Obrigado. Merci beaucoup. Je vais interviewer maintenant votre fils parce qu'il est aussi pêcheur. On va s'entretenir avec votre fils. Merci beaucoup.
Baba Antônio Brandão, tenho 28 anos. Você pesca?
Baba Brandão, j'ai 28 ans, je suis pêcheur.
Alors Baba, vous êtes vraiment la génération la plus jeune. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette culture Bijagos, avec ses traditions ? Et est-ce que vous pensez que vous allez être en mesure de la préserver, cette culture ?
Si, nous ne pas conserver. Suivre la culture pas conserver, c'est difficile.
En fait, notre société a des règles. Et pour avoir justement le savoir d'un ancien pour soi, il y a quand même ces étapes-là que nous franchissons. Par exemple, moi, je suis plus jeune. Alors, pour m'inscrire dans cette lignée-là, il y a des règles que je dois faire. Il y a des étapes d'abord, des classes d'âge. Il y a des pratiques que je dois faire. Par exemple, je dois aller nettoyer moi-même un palmier, extraire le vin de moi-même, que je dois présenter à quelqu'un de plus ancien que moi, de qui je voudrais avoir un savoir. Il va boire ce vin-là. C'est comme si j'achetais le savoir qu'il doit me transmettre. Voilà, il va me donner ce savoir. Et ensuite, si je veux connaître une autre, je vais à l'étape supérieure. Et ainsi de suite. Moi aussi, je dois retransmettre cette expérience-là aux plus jeunes qui vont suivre les mêmes pas que moi pour avoir accès à ce savoir-là. Donc, il y a des étapes à franchir selon l'âge et selon la classe.
Mais est-ce que tous les jeunes sont comme vous ? Ou est-ce que certains rêvent d'autre chose, de voyager, de découvrir d'autres cultures ? Avec la télé, la radio, certains peuvent rêver d'un ailleurs loin des Bijagos.
Bon, annonce les notes de banque.
Chez nous, les Bijagos, la culture est très importante. Moi, aujourd'hui, j'ai été à l'école, j'ai déjà fait la terminale. Mais je reste attaché à cette culture-là parce qu'elle est assez importante, c'est l'essence même de la vie. D'autres, même s'ils sont tentés par la vie ailleurs, il y a quelque chose qui les relie à ce terroir-là. Ce sont les cérémonies que nous organisons. À un certain moment de l'année, tous abandonnent la ville, viennent maintenant se ressourcer, font cette cérémonie et repartent. Parce que lorsque vous ne faites pas ces cérémonies, vous ne remplissez pas ces conditions-là. Et qu'un jour votre père ou votre mère dans le village meurt, vous ne pouvez même pas vous approcher du corps. Et c'est ce qu'il y a de plus humiliant pour un jeune ou pour un homme dans la communauté Bijagos.
Alors aujourd'hui, Ourok, donc cet ensemble de trois îles où nous sommes, c'est une aire marine protégée communautaire. Qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait que ce soit une aire marine protégée communautaire? Et qu'est-ce qu'une ONG comme Tinigena vous apporte?
Bon, l'avantage que nous avons une aire marine protégée est très grande pour la communauté.
Alors, avec cette aire marine protégée, l'avantage que nous avons, c'est qu'elle nous garde en communauté. Communauté de bien et même manière de penser. Et tout le monde est conscient de cela. Par exemple, dans les différentes communautés, chaque village a ses limites, son espace. C'est exactement la même chose dans la mer. Chaque village a un espace bien déterminé pour sa communauté. Et ces règles-là, tout le monde les connaît dans la société Bijagos. Si quelqu'un qui n'est pas de la communauté vient, il vient s'installer, il passe à travers la chefferie traditionnelle et c'est ce chef qui lui montre l'endroit, le plein de terre, là où il doit se mettre. Et on lui explique exactement ses devoirs et ses droits dans la société et ses limites également, selon justement ces règles Bijagos. Alors ceux qui sont chargés de surveiller ces règles, de l'application de ces règles-là, nous les appelons les kamabines. Les kamabines, ce sont les jeunes initiés, ceux qui sortent nouvellement du bois sacré, et ce sont ces gens-là qui sont obligés de faire ça. À supposer, par exemple, que nous ayons un pêcheur qui n'est pas de notre communauté, qui est installé dans le village et qui tue un animal protégé par la communauté, comme les tortues, comme les dauphins, comme l'hippopotame, etc. Là, ce sont ces jeunes initiés qui sont chargés d'appliquer la loi sur lui. On l'amène au fétiche, c'est une sorte de prison. Donc là, on va élever les murs, fermer entièrement ce fétiche-là, fermer la porte, l'individu rentre jusqu'à un certain temps dans cette pêche. Et il n'y aura pas de lumière sinon qu'un feu de bois qui est allumé et il reste là jusqu'à ce que lui-même il se repentisse du tort qu'il a eu à commettre pour l'environnement et pour la communauté. Alors, nous, ces règles-là, jusqu'à présent, elles sont vives dans notre communauté et c'est comme ça que nous continuons à les préserver pour au moins délimiter. Ça nous sert de résolution dans nos conflits inter-villages, etc.
Aujourd'hui, vous êtes confronté à des énormes bateaux chinois qui viennent pêcher au large des côtes, qui s'approchent d'ailleurs de plus en plus des côtes, on les voit de certaines îles. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre cette pêche-là?
C'est vrai que nous sommes impuissants face à ces gens-là, mais nous avons nos propres moyens personnels de le faire. Nous lançons des obstacles dans l'eau qui permettent aux poissons de se cacher ou de pouvoir s'échapper de ces genres de filets, etc. Alors, avec ces obstacles-là, quand les bateaux jettent le filet s'accroche à un rocher ou bien à un truc comme ça, et là, il ne peut plus continuer. Ce sont ces genres d'astuces que nous montons dans les aires marines protégées, pour au moins sauver la vie du poisson. Mais nous savons que certains contrats sont signés au niveau de Bissau par les autorités là-bas qui ne tiennent pas compte de nos réalités. Nous sommes dans une entité qui est un pays, mais nous sommes obligés de nous protéger nous-mêmes face à justement ces gens qui sont forts et qui ont déjà l'appui du gouvernement.
Et vous, personnellement, vous pensez que vous êtes délaissé par l'État guinéen, justement?
Bon, État facile.
Ici, nous ne profiterons aucun profit de ces accords qui sont signés ou bien de ces licences ou de ces contrats. Rien, absolument. Parce que nous vivons dans l'isolement complet. Regardez, par exemple, pour se déplacer d'ici à aller vers la capitale, il n'y a rien. Mais si, par exemple, l'argent qui vient de ces contrats permet de garantir la stabilité du pays, nous sommes un maillon de la chaîne, ça va. Mais quant à tirer profit de ces accords, absolument rien. Il y a une absence totale de l'État ici. Il y a un agent de l'État qui est là, mais quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il nous apporte de concret dans la communauté? Rien, absolument. Nous le respectons parce que c'est une autorité. Point barre, il n'y a rien d'autre. Nous sommes obligés de nous prendre en charge nous-mêmes dans notre quotidien.
Parfait, merci. Donc Manuel, la voici la fameuse vedette de
Tinigena.
De Tinigena.
C'est une vedette en aluminium. C'est le plus approprié pour ces endroits-là. Parce que c'est une zone où les fonds ne sont pas profondes. Tu as beaucoup de cailloux. Tu as besoin de flotter très vite, le plus rapide possible, parce que le temps des marées sont courts. Donc ce bateau a été construit un peu adapté à cette condition-là.
Eh bien écoutez, on est parti.
Ce sont des oiseaux qui viennent d'arriver, migratoires, ils arrivent de Paliart. Et c'est ici qu'ils trouvent le bon endroit pour se nourrir et en tant qu'ils se préparent pour la prochaine migration vers le nord. C'est la zone, depuis le Banc d'Arguin, la zone plus importante en Afrique d'Ouest pour ces oiseaux, pour passer l'hivernage.
Alors là, on longe la mangrove, c'est magnifique, puis il y a tout un tas d'oiseaux.
Il y a plein de pélicans qui sont un bon indicateur de la richesse en récifs halieutiques dans cette zone. Et c'est pour cela, à la marée haute, on va le trouver toujours sur la mangrove. Comme tu peux voir, l'extension de la mangrove, c'est magnifique. Il va jusqu'à la terre.
Donc,
c'est
la terre, elle est loin d'ici.
Dans la terre, elle est loin d'ici. On est plus de 3-4 km de la terre.
C'est-à-dire qu'il y a 3 km de mangrove là.
3 km de mangrove jusqu'à des deux points où on est ici. Fait que cette complexe est très très importante du point de vue de conservation des ressources halieutiques. Parce qu'il a tout un habitat favorable au développement des poissons, à leur protection. C'est l'endroit le préféré, priorité pour le poisson quand il rentre pour le pourpondre. C'est un des grandes richesses du roc, c'est toute cette belle extension de mangrove qu'on a. On va continuer maintenant, on va rentrer dans une des rentrées des ventres des îles. Les ventres des îles, c'est la zone centrale entre les trois îles. Là, les restrictions des pêches sont plus fortes. C'est un endroit propice à la reproduction. C'est pour ça que le Bijago l'appelle aussi le ventre. Ventre, ça veut dire barriga, la partie plus importante du corps. Donc il ne faut pas l'épuiser, sinon mort. On avance vite.
Là, c'est le bateau de surveillance.
C'est le bateau de surveillance participatif. Donc c'est l'équipe opérationnelle, c'est l'équipe qui normalement est chargée de contrôle de l'espace maritime. Ils vont rester 2 jours en mer. Son rôle, c'est un peu contrôler les zones plus sensibles. Mais la particularité de cette surveillance, c'est qu'on a ici un bon exemple du travail conjoint entre la communauté et l'autorité de l'État.
Mais là, justement, là, ils sont 5 sur le bateau. Il y en a 2 qui sont triés, puis il y en a un carrément qui a une Kalachnikov.
Oui. Les 2 qui sont armés avec le Kalachnikov sont les policiers que les autorités d'État mettent à disposition de la communauté pour la mission.
Vous pouvez leur demander s'ils ont surpris quelqu'un cette nuit ou aujourd'hui.
Oui, on peut demander qu'est-ce qui était passé cette nuit-là. Quelque passé de notre. Il y a alguna cosa.
Zone de Kumpada Wada. Et pour nous, c'est un de fort.
Nous étions à la zone de Kumpada. Ensuite, nous sommes venus jusqu'au niveau de cette île en face. Et là, nous avons rencontré juste une vedette de Laurent qui est venue avec une équipe de pêcheurs.
Et Laurent, c'est le fameux pêcheur qui s'adonne à la pêche sportive.
Sportive, c'est ça.
Et qui enfreint régulièrement la loi, à la si loi, j'ai bien compris. C'est ça, monsieur Manuel.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est l'opérateur avec lequel on a plus de conflits, qui nous porte plus de problèmes, même de conflits à ce moment qu'on a avec la communauté locale au niveau d'île de Ngago.
Et vous le voyez régulièrement, ce monsieur?
Oui, de temps en temps, on le rencontre, mais il nous avait déjà échappé. Il nous a vu très tôt. Parce qu'il avait un moteur qui est plus puissant que le nôtre et il a pu s'échapper.
Et alors, à part Laurent, donc ce Français qui s'adonne à la pêche sportive, est-ce que vous avez surpris d'autres pêcheurs dans des zones 1 ou 2, les zones interdites?
Oui, très souvent, on en prend. Hein. Il y a certains qui sont installés à Boubac dans les îles voisines, là, comme Gilles, par exemple, qui avait 12 cannes de pêche, avec on l'a saisi. Et encore d'autres pêcheurs locaux qui infiltrent dans la zone. Nous les prenons très souvent.
Ok, obrigado. Merci beaucoup, monsieur. Muito obrigado.
Restez avec nous, dans quelques minutes, nous poursuivrons notre périple au cœur de l'archipel des Bijagos. A tout de suite.